je le disais, notre invitée est une actrice connue, même si, comme elle l'écrit très justement, elle est une actrice connue que personne ne connaît. 8 fois nommée au César, meilleure actrice pour Se souvenir des belles choses. 4 fois nommée au Molière, meilleure comédienne pour Mademoiselle Else et L'hiver sous la table. Elle signe un roman dont on espère qu'il sera le premier d'une longue série. À la fois portrait d'une famille, tableau d'une époque, roman d'apprentissage et réflexion sur le décalage entre l'être et le paraître. Bonjour Isabelle Carré.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Merci à vous.
Ce livre s'intitule Les Rêveurs, il a paru chez Grasset, mais je parlais à l'instant, de Frank Capra, de Monsieur Smith au Sénat, de James Stewart. Ce sont des films que vous aimez voir, revoir?
Oui, parce qu'il y a toujours une solution qui surgit à la fin.
Et ça fait plaisir.
Oui,
et
puis je trouve qu'après, on a envie d'aller vers les autres. Après avoir vu ces films-là, La vie est belle en premier lieu, mais il y en a plein d'autres. Milliardaire pour un jour, moi, c'est un de mes préférés aussi. Et je sais pas, après, on a envie de prendre dans les bras les gens dans la rue. On a envie d'être dans cette fraternité.
Isabelle Carré, les journalistes posent toujours les mêmes questions. Vous le savez, vous le dites, vous l'écrivez
oui.
même. Et vous concernant...
Je n'aurai pas parce qu'après je me piège moi-même.
Exactement. Parce que vous concernant, vous dites qu'ils utilisent toujours 2 adjectifs, discrète et lumineuse. Et bien précisément, est-ce que vous avez conscience qu'après ce livre, on va dire qu'il y aura un avant et un après, que désormais tous les journalistes vont commencer des interviews en disant « Mais ce que vous écrivez dans votre livre ne correspond pas à l'image qu'on se faisait de vous, etc. etc. » En fait, vous êtes beaucoup plus ténébreuse. Est-ce que vous avez conscience, est-ce que vous êtes préparée à ça?
À un moment, j'ai hésité évidemment. Est-ce que j'écrivais sous mon nom, sous mon propre nom ou avec un nom d'emprunt? Et en fait, ça fait vraiment partie du sujet du livre, les apparences. Et on a tous cette expérience, de gens qu'on croyait si bien connaître et qui révèlent, qui vous racontent une histoire d'eux-mêmes. Et tout à coup, vous avez conscience que ça n'était que la partie émergée de l'iceberg et qu'il y a tout le reste, la face cachée. Alors, j'ai pas tout raconté. Et puis, encore une fois,
c'est un roman.
C'est un roman, c'est-à-dire que je me suis attachée à raconter les choses d'une façon romanesque. Toute la première partie qui s'appelle Pantin, on peut peut-être dire un petit peu l'histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille-mère, et sa famille attend d'elle qu'elle fasse adopter l'enfant, qu'elle ne le garde pas. Et elle se rebiffe. C'est un livre qui parle de nos libertés et du fait qu'on est souvent aussi le produit de son époque. Effectivement, vous parliez de ça en présentant le livre. J'ai vraiment essayé de retraduire, de retranscrire une époque.
Alors, en l'occurrence, les années 70.
Alors d'abord les années 50, 60.
D'abord les années 50, 60,
puis les années 70.
Beaucoup les années 70, puis un petit peu les années 80 aussi.
Voilà, c'est mon enfance, mon adolescence, et c'était une époque aussi complètement incroyable. En 68, un tiers de la population française avait moins de 20 ans. Au début des années 60, la croissance était à 6%. Et il y avait une espèce d'espoir insensé. Et en même temps, cette révolution culturelle et sexuelle de mai 68 n'était pas non plus passée par tout le monde. Et ça demandait du temps.
En l'occurrence, pas par les parents que constituent les personnages de votre roman, Isabelle Carré, les rêveurs. Le père et la mère ont grandi dans des familles qui n'ont pas nécessairement vu cette libération générale.
Oui, il y avait
passer par eux.
Il y avait déjà une grande distance entre ces deux êtres, puisque le père venait d'un milieu modeste, petit-fils de cheminot, garde-barrière, couturière ou petit fonctionnaire. Un milieu à la fois modeste, mais en même temps avec ce désir de dignité, cette pression quand même de bien faire et toutes les injonctions qui vont avec, et cette jeune femme, la mère, elle d'un milieu aristocratique, un peu désargenté, le fait que oui, on a l'impression d'être dans un roman de Jane Austen, presque, en tout cas d'un siècle lointain, avec un sentiment de déshonneur, elle va être cachée, donc à Pantin.
Et là, on retrouve la part autobiographique qui est la vôtre, Isabelle Carré, puisque vous avez grandi dans ce grand écart social entre une mère d'origine aristocratique et un père fils de cheminot, entouré donc de gens très très différents. Vous qualifiez cet environnement de post-68 art zen. Est-ce que ça vous a aidé dans la vie, ce grand écart social, et si oui, en quoi?
Oui, c'est une richesse incroyable. On demande souvent aux acteurs de passer d'un personnage à un autre. Dans le film de Josiane Balasko, je joue une coiffeuse, là aussi assez modeste. Voilà, dans un milieu, ils sont tous les uns sur les autres dans un tout petit appartement. Et puis, ça m'est arrivé aussi la seconde d'après, de jouer du Musset en robe à crinoline. Bon, il faut savoir, faire effectivement ce grand écart quand on est comédien. Et cette formation, en fait, on dirait que je l'ai eue effectivement dans mon enfance avec cette différence complètement radicale de milieu.
Je disais, Isabelle Carré, que c'était un livre dans lequel vous dévoilez un pan insoupçonné de votre visage, de votre personnalité, de votre caractère, même de votre vie. Vous mettez en scène une fille qui ne ressemble pas du tout à l'image qu'on se fait de vous. Qu'en est-il de cette famille du livre? Est-ce que c'est une famille qui ressemble à la vôtre ou c'est une famille qui ressemble à l'image que vous vous en êtes faite? Ma question est un peu compliquée à cette heure du matin, je m'en rends bien compte. Mais...
en fait, j'ai vraiment voulu m'attacher au romanesque, c'est-à-dire à des éléments que je développais avec l'idée effectivement de faire jaillir ce qui pourrait aussi intéresser des lecteurs. Je vais juste raconter un épisode, cette mère qui manque de se noyer, qui est rattrapée par les cheveux, cette petite fille que j'étais, qui pensait vouloir que c'était possible de voler. Peut-être parce que je m'appelle Icare quand on regarde les les majuscules de mon nom. Ces anciens amoureux qui se retrouvent, ce mariage à la fin, ces retournements spectaculaires du destin, ça m'intéressait beaucoup. J'aime beaucoup le roman de Paul Auster en ce moment, qui parle un peu de
4,
ça,
3,
du
2,
jeu,
1.
Voilà, qui parle du jeu des si. Et si on prenait cette décision-là, et qu'est-ce qui se passerait si la mère n'avait pas déchiré cette lettre qui fait que elle rompt complètement avec cet homme dont elle attend l'enfant. Voilà, bien, nos vies ne seraient pas là ici aujourd'hui. Je serais pas là en train de vous parler de ce roman. J'ai eu envie de parler des hasards. Alors, pour répondre plus sincèrement à votre question, oui, c'est une famille qui ressemble à la mienne, mais c'est juste aussi, la deuxième partie de votre question était très juste, ce n'est que ma subjectivité. Je n'ai absolument pas voulu à aucun moment rentrer dans une quelconque vérité vraie, quoi.
Il ne s'agissait pas de régler des comptes, il ne s'agissait pas de rétablir une vérité, il ne s'agissait pas de...
Le récit n'est pas construit d'une façon linéaire, ni d'une façon linéaire temporelle, ni enfin... C'est aussi ce que je voulais raconter, c'est des impressions et beaucoup plus des émotions que des faits.
Et des sensations.
Voilà, les sensations de l'enfance, les couleurs de l'appartement dans lequel j'ai grandi.
Rouge, marron.
Tout rouge, les années 70, quoi, les couleurs des années 70, la chambre vert pomme et ces couleurs associées à une musique, celle qu'on écoutait tout le temps, ces musiques futuristes où on avait tout le temps l'impression d'être dans un vaisseau qui décolle. Et le goût, la tablette de Galac, c'est plus des sensations et l'opacité aussi.
Mais il n'y a quand même
l'opacité
pas...
L'opacité de l'enfance.
Il y a tout ça dans Les Rêveurs, Isabelle Carré. Mmh. Il y a quand même quelque chose de très fort, je dois vous avouer que j'ai trouvé votre livre très courageux, très audacieux, très courageux même, parce que vous vous dévoilez, vous déchirez le voile, vous laissez apparaître de vous des choses qu'effectivement on ne connaissait pas, mais vous allez très loin dans le dévoilement, vous parlez de choses qui vous sont arrivées réellement, même si bien sûr c'est un roman, vous le dites parce que vous n'avez pas du tout travaillé seulement avec vos souvenirs, c'est aussi l'imaginaire, bien sûr... Tout roman a une part d'autobiographie, mais vous assumez la dimension autofiction d'une certaine façon.
Oh non, je dirais plutôt un roman aux accents autobiographiques qu'une autofiction.
Pardon pour l'autofiction, parce que je voudrais pas qu'on mette des étiquettes qui n'en sont pas. Alors on va garder le roman autobiographique, mais vous allez loin parce que par exemple vous dites à quel point vous avez grandi dans une forme d'insécurité affective, qu'il y avait une grande solitude, une grande angoisse. Vous avez grandi avec une grande angoisse. Mmh. Et c'est ce qu'on ressent avec plein d'à côté très joyeux de la vie telle que vous êtes, telle que vous nous donnez à voir. Mais il y a quand même cette grande solitude. Est-ce que vous sauriez dire d'où elle venait, du fait que je sais pas, vos parents se préoccupaient peut-être d'eux avant tout. Vous employez des mots forts, d'égoïsme, par exemple, concernant.
Ouais,
concernant ces parents-là, on va essayer de les mettre à distance
voilà,
pour
ça,
les personnages.
Les parents, la mère, le père, encore une fois, sont devenus des personnages de roman. Ça fait 20 ans, en fait, que j'ai en tête d'écrire cette histoire. Je suis tombée, enfin, c'est moi qui ai voulu faire la démarche, mais enfin, c'était une chance inouïe de découvrir l'atelier d'écriture de Philippe Jean. J'ai suivi cet atelier pendant en fait 3 mois.
Pas par hasard, donc, parce que vous aviez l'intention d'écrire.
J'avais commencé à plusieurs reprises et je pensais à chaque fois que ces essais voilà, étaient avortés, étaient des échecs. En réalité, c'était comme un palimpseste qui était en train de se construire. Et j'ai utilisé tout ça, bien sûr. Il y a même des chapitres qui portent le nom, comme par exemple le piano ou les revues, qui portent le titre que je leur avais donné il y a 10 ans. Donc tout ça, finalement, a été utile. Et ce que je veux dire, oui, c'est le produit d'une époque aussi, cette éducation en mai 68, l'éducation était en marge en fait. Effectivement, les gens se cherchaient une vérité. C'est vraiment un roman d'apprentissage. Ce sont des gens qui se bricolent un peu leur vie, qui sont sous la pression de la société, du regard de la société par rapport à l'homosexualité ou par rapport à ce que doit être une jeune fille de bonne famille et qui petit à petit vont se libérer. Voilà ce que dit le roman, c'est que la liberté, c'est pas, oui, une sensation, c'est une conquête. Et les enfants, mais je pense que ça c'est partagé par beaucoup d'enfants de mai 68, de 68 tard, de post 68 tard, suivaient un peu. Mais on n'était pas encore dans l'éducation bienveillante d'aujourd'hui. L'éducation était, tout était à réinventer, l'éducation en faisait partie. Dolto venait juste d'émerger. Je me souviens encore, gamine, d'avoir vu ce documentaire « Le bébé est une personne » et on était complètement étonnés. Enfin, c'était une découverte incroyable.
Qu'est-ce que vous devez à cette famille un peu déglinguée, avec cette forme de fantaisie, d'ouverture d'esprit qui a quand même guidé l'éducation, que cette jeune fille des rêveurs, vous voyez, on joue toujours entre vous et elle, hein, bien sûr.
Le goût du rêve, hein. Le goût du rêve, les rêves, l'espoir, l'espérance, faut pas en avoir peur ils sont tous des gens qui rêvent énormément, alors ils pourraient passer leur vie à rêver.
C'est une fuite, ce rêve ?
Voilà, ça pourrait être une fuite, mais finalement, ils arrivent quand même à réaliser quelques-uns de ces rêves. Je pense que le roman est assez lumineux, même s'il y a effectivement des moments douloureux, des moments violents, comme dans l'hôpital psychiatrique, par exemple. Mais chacun, finalement, trouve sa place. Et ça, je pense que ça peut donner beaucoup d'espoir aux gens qui se trouvent... On a tous des moments où on se trouve un peu à côté, quoi. Trouver sa place, c'est quand même compliqué.
C'est précisément à l'hôpital psychiatrique où vous avez été, Isabelle Carré, à la suite d'une tentative de suicide à 14 ans, et vous le racontez dans ce roman Les Rêveurs. C'est justement à l'hôpital psychiatrique, un moment très fort de votre ouvrage, et je suppose, bien entendu, de votre vie telle qu'on le comprend quand on le lit, que vous avez décidé d'être comédienne. Après avoir vu un film à la télévision, Une femme à sa fenêtre, Romy Schneider.
Vous avez dit à Ferit Pacha que je n'étais jamais rassasiée des hommes. Parce que je n'avais jamais vraiment faim. Vous m'ouvrirez l'appétit ? Je plaisante. N'échangeons rien à nos conventions. Vous êtes auprès de moi pour me défendre et me protéger contre les tentations.
Et qui vous tente ? Rôle Malpousse ? Il est très assidu. On me voit souvent dans sa villa de Kéficia.
Ils sont tous très assidus. Ils ont tous des villas à Kéficia. Et on me voit toujours dans toutes les villas à Kéficia. Malfaux, ce serait la sécurité, bien sûr. Mais je me moque de la sécurité.
Isabelle Carré.
C'est joli, je me moque de la sécurité.
Ouais, surtout qu'on en a parlé de la sécurité affective. Il y a eu un rêve de ballerine, de danseuse à l'Opéra de Paris quand vous étiez petite. Mais c'est là qu'effectivement s'est dessiné votre destin d'actrice. En tous les cas, c'est ce que vous racontez. Et il y a beaucoup de pages sur le cinéma, bien sûr, tout au long du livre, et de réflexions aussi sur votre métier d'actrice. Par exemple, celle-ci, « Je fais du cinéma pour qu'on me rencontre, ou plutôt pour rencontrer des gens ».
Oui, je pense que quand on va dans une salle de théâtre ou au cinéma, c'est pour se voir aussi, pour voir ses propres questions, pour trouver des réponses. Et quand on ouvre un livre, voilà, on a envie de se lire, on a envie de mieux se comprendre soi-même. Et parfois, quelqu'un formule une phrase exactement comme vous auriez aimé le dire de cette façon-là, c'est exactement les mots qu'il aurait fallu et que vous cherchiez. Et quelqu'un le dit mieux que vous et ça vous ouvre une porte, ça vous aide pour la vie. Je parle aussi de la vie mode d'emploi. Quand on est adolescent, c'est un peu ce qu'on cherche, même toute sa vie d'ailleurs. Des phrases-réponses, moi j'appelle ça des phrases bijoux, quoi. Ces phrases qui sont précieuses et qui vous accompagnent toute votre vie.
Et jouer des rôles, c'est aussi une façon de se cacher quand on n'a pas voulu se dévoiler.
Alors là, c'est un petit peu pareil que l'écriture, en fait. C'est-à-dire que dans la fiction, on peut glisser des effets de réel. Quand on joue, il faut qu'on fasse croire à cette fiction d'une façon tellement forte que les gens puissent s'identifier. Donc on cherche la réalité, on met énormément de soi, évidemment. On se dévoile complètement, mais les gens ne le savent pas toujours parce que voilà, il y a cette fiction, le fait que c'est écrit par quelqu'un d'autre, que vous êtes un interprète, que c'est au service d'un texte, d'un auteur. Mais en fin de compte, on dit beaucoup plus que ça. Et là, c'est un petit peu l'inverse. Voilà,
j'ai des
éléments de réalité que j'ai glissé dans la fiction. Isabelle, ce qui m'importait beaucoup, pardon, c'était de trouver aussi un langage, une écriture, de pas être simplement dans une espèce de radiographie des choses. Encore une fois, pas raconter simplement les faits. Voilà comment il m'est arrivé ça, ou là j'ai vécu à tel âge ceci, ou
Ne suis pas sûre que vous soyez à cette place si vous aviez fait ça. C'est effectivement un texte littéraire et vous dites que vous avez suivi l'atelier d'écriture de Philippe Dion. Qu'est-ce que vous y avez appris précisément?
J'en ai parlé, on est reparlé il n'y a pas longtemps avec lui. Il me disait alors tu vas continuer à écrire. Je disais oui, j'ai très envie, j'ai commencé, j'ai une soixantaine de pages déjà, j'ai une autre encore histoire dans la tête. Mais je lui disais c'est vrai que cette histoire-là particulièrement, voilà, ça fait 20 ans que j'essaye de la raconter. Et ce temps, en fait, fait que je l'ai raconté de cette façon-là, avec ces ellipses, avec cette construction, où il y a même des changements de style. Au début, on est vraiment presque dans un roman, comme je vous disais, un peu anglais, comme ça, en tout cas, un roman d'un autre siècle. Et puis après, l'écriture devient beaucoup plus moderne. Je passe au jeu. Il y a des chapitres très courts, des chapitres plus longs. Est-ce que je contiens une autre histoire? Parce qu'on dit, il paraît qu'on contient tous un roman ou plusieurs romans. Combien j'en contiens? Je sais pas. Et il m'a dit, tu sais ce que je pense des histoires. Lui, sa grande, sa grande réflexion sur les romans, c'est que c'est pas l'histoire l'important à aucun moment. Ce qui est important, c'est la façon dont on raconte les choses. On peut parler pendant 20 pages d'un flocon de neige qui tombe, et on peut le suivre, ce flocon de neige, et partir ailleurs.
Vous lisez beaucoup, Élisabeth Carré. Souvent dans les entretiens, vous faites référence à des livres, soit que vous avez lu, soit que vous êtes en train de lire. Ça a été le cas pour Paul Auster.
Oui.
Joyce Carol Oates, Paysages perdus, que vous avez lu récemment aussi. Oui. Vous en parlez beaucoup. Est-ce que ça vous a aidé aussi?
On parlait de solitude aussi. Vous disiez qu'il y avait une grande solitude dans chacun des personnages des rêveurs. Je pense que c'est ce qui nous constitue aussi tous. Et j'adore les romans de Carson McCullers, pour répondre à votre question par exemple, parce que c'est que ça, ces personnages, c'est des gens qui sont dans une magnifique solitude qui donne envie de rencontrer les autres. Alors c'est ce qu'on disait, l'envie qu'on me rencontre, envie de rencontrer des gens. C'est pour ça que tous ces personnages de Carson McCullers sont sans arrêt dans des cafés. J'adore ces scènes dans les cafés. Oui, je lis beaucoup parce que ça m'aide, parce que c'est encore une fois la vie mode d'emploi pour moi.
Il y a Laurent Mauvignier, par exemple, aussi, dans le livre, avec cette écriture qui naît d'un secret. Dans ce livre aussi, il y a un secret qui est dévoilé à la 100e page. Pas spécialement envie qu'on le dise, ça a été dit dans les articles, mais je laisse les auditeurs, futurs lecteurs, le découvrir, même si c'est pas non plus un suspense. Mais comme pour Laurent Mauvignier, que vous citez, le secret, c'est une source d'inspiration, un élan, une colère nécessaire pour écrire des histoires, Isabelle Carré?
Oui, il y a des blessures qu'on a en chacun de nous. Et là, j'ai pas envie de faire de hiérarchie entre ces blessures. Il y a des gens qui peuvent avoir le sentiment qu'ils ont peut-être pas vécu grand-chose dans leur vie, mais bon, ça peut être aussi, comment dire, la perte. Je vais dire n'importe quoi. Ça va sembler désuet, mais la perte d'un animal, voilà, ça peut être un drame aussi. Et on vit avec ça et ça nous constitue. Et ça fait que oui, on a une force en nous, on a une violence en nous. Et ça, c'est ça qui fait qu'on a envie de sortir des choses, d'écrire, de se mettre à écrire, de communiquer avec les gens, encore une fois, de partager sa solitude, d'aller dans des cafés, de rencontrer d'autres gens et de savoir qu'on a tout ça en commun, quoi.
Et pour certains, c'est aussi l'actualité, les faits divers ou les faits de l'actualité qui peuvent être une source d'inspiration littéraire. On vous retrouve dans 2 minutes, juste avec après plaisir. Les titres de l'actualité, précisément. Il est 7h30 sur France Culture. Camille Manière, c'est à vous pour les titres de l'actualité donc.
Un mea culpa sous la contrainte. Le PDG de Lactalis, Emmanuel Beignet, a endossé hier soir toute la responsabilité du scandale du lait infantile contaminé à la salmonelle. Il l'a fait dans le bureau du ministre Bruno Le Maire qui l'avait convoqué à cet effet. Emmanuel Beignet s'engage enfin à faire la lumière sur l'origine de la contamination, à reprendre toutes les boîtes de lait produites dans l'usine de Cran en Mayenne et à indemniser à 100% les salariés mis au chômage technique par la fermeture de cette usine. Dans le journal de 8h, nous verrons que le scandale sanitaire s'internationalise. Les produits potentiellement dangereux ont été exportés dans 66 pays. Déjà un enfant contaminé en Espagne. Donald Trump prolonge pour encore 120 jours l'accord sur le nucléaire iranien. Mais il menace, c'est la dernière fois, à moins que les Européens n'acceptent de durcir les conditions imposées à Téhéran. Faute de quoi, le pensionnaire de la Maison-Blanche jure qu'il rétablira les sanctions économiques contre l'Iran. Hier, il a dû affronter une avalanche de critiques, également après ses propos qualifiant de pays de merde. Les pays africains, mais aussi Haïti et le Salvador, d'où partent la plupart des migrants vers les États-Unis. Le groupe des Nations africaines à l'ONU appelle Trump à retirer publiquement ses propos et à s'en excuser. 3 militaires français blessés au Mali dans une attaque terroriste revendiquée par un groupe lié à Daesh. Une voiture piégée a explosé au passage de leur convoi jeudi, jour du 5e anniversaire du déploiement des forces françaises au Sahel. Dans le journal de 8h, retour sur les coups de théâtre en série hier dans l'enquête sur l'attentat de la rue Copernic. 4 morts et une quarantaine de blessés il y a 37 ans devant une synagogue parisienne. Hier donc, les juges d'instruction ont innocenté et fait libérer l'unique suspect, le Canado-Libanais Hassan Diab. Mais le parquet a immédiatement fait appel. Enfin, dans une demi-heure, nous évoquerons une pratique qui pourrait débarquer bientôt en France, le cashback, possibilité de retirer du liquide à la caisse de n'importe quel commerce. Autorisée à compter de ce samedi par une nouvelle directive bancaire européenne, la pratique est freinée en France tout de même par les inquiétudes des banques et de certains commerçants.
Eh bien, on vous retrouve à 8h pour le développement de tous ces titres. Camille Manière, à suivre dans la prochaine demi-heure la suite de notre entretien avec l'actrice et désormais romancière Isabelle Carré. Et à 7h40, la fabrique médiatique sur les journalistes et la banlieue avec Ariane Chemin du Monde et Erwan Cutty du Media Lab 93.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Les chemins de la philosophie, du lundi au vendredi sur France Culture à 10h, Adèle Manrès.
Ça s'en va et ça revient, se fait de tout petit rien.
Et pourtant, ces petits riens ont fait les plus grandes chansons qui nous accompagnent depuis toujours. Alors quel est le secret des chansons populaires? Pourquoi populaire rime-t-il toujours avec médiocre? Et pourquoi snobons-nous ceux qui fondent aussi notre culture? Du sentiment d'injustice à la mise en scène de la mort, cette semaine, on vous invite sur scène.
La chanson populaire dans les chemins de la philosophie d'Adèle Manrette, de lundi à vendredi à 10h, à retrouver sur franceculture.fr.
Isabelle Carré est avec nous ce matin, notamment pour la parution en cette rentrée littéraire des Rêveurs chez Grasset, son premier roman, que vous présentez donc comme un roman autobiographique. Mais dites donc, c'est un peu l'année du grand chambardement pour vous et même de la libération, au-delà même de la libération de la parole des femmes, puisque depuis fin décembre, vous êtes à l'affiche d'une comédie, Garde alternée, c'est-à-dire que vous faites rire. Ce à quoi vous n'êtes pas habitué.
C'est vrai que j'ai fait quelques comédies, mais c'est pas le registre qui me définit le plus. Enfin, au départ, j'ai fait beaucoup de drames. Voilà, Se souvenir des belles choses, un film que j'aime beaucoup, Anna M. de Michel Spinoza, Les Sentiments de Noémie Lvovsky. Il y avait un peu des deux. Bon, c'était plutôt des drames parfois assez terribles, mais quand même quelques comédies. Avec 4 étoiles de Christian Vincent.
Vous faites toute la litanie, on pourrait la lire d'ailleurs, sur deux pages
aussi, ouais.
Des rôles de femmes que vous avez interprétées. Mais ça vous fait plaisir de faire rire, de jouer la comédie avec cette garde
moi, toujours,
alternée?
C'est vrai que c'est pas le registre qui m'est le plus naturel, mais j'adore ça parce que ça me fait du bien déjà. Et puis aller au bout, comme c'était le cas avec ce film d'Alexandra Leclerc, aller au bout de chaque intention et de chaque situation aussi dingue soit-elle, ouais, ça fait du bien. Et puis ce film était quand même très bien écrit. J'étais très heureuse de travailler avec Alexandra Leclerc.
C'est un vaudeville hein, dans lequel vous jouez le rôle de la maîtresse à côté de Didier Bourdon et de la femme, Valérie Bonneton. Un film dans lequel les femmes ne se laissent pas faire. L'homme n'a pas nécessairement un beau rôle. On pourrait peut-être le qualifier de comédie féministe.
Oui, j'aimais bien l'idée que voilà qu'elle prenne chacune de ces femmes vraiment prend son destin en main, se laisse pas mener comme un petit bouchon sur l'eau et effectivement c'est elles qui vont mener la danse. Il va y avoir un peu une histoire d'arroseur arrosé et c'était en même temps plein de tendresse. C'était vraiment amusant à jouer.
Vous en parlez déjà au passé. Le film est sorti le 20 décembre.
Le film est sorti,
fini.
Bah oui, mais malheureusement les films ont une vie beaucoup plus courte que les livres. Ça j'ai appris ça. Par exemple, quand on parle d'un film, on en parle avant la sortie, puis après c'est fini. Alors qu'un livre, c'est l'inverse.
Pourtant,
là, je suis en train de découvrir plein de choses.
Et ils ont aussi les films 2-3 vies maintenant. On peut
voir
en DVD. Bon, là même pas encore. Il est encore à l'affiche.
Enfin, oui, il est encore à l'affiche.
On peut encore le voir.
Absolument.
Vous allez jouer également, Isabelle Carré, au théâtre, puisque vous êtes polyvalente. Hein. Vous jouez au théâtre, vous jouez au cinéma et vous écrivez. Vous êtes en pleine répétition d'une pièce de théâtre qui va commencer à partir du 19 janvier au théâtre à Paris.
Au théâtre de l'Atelier.
Au théâtre de l'Atelier, tout
Charles
à fait.
Dulin, ouais.
Et c'est une pièce de Jane Anderson, mise en scène par Hélène Vincent, qui s'intitule Baby, sur la famille, sur les enfants, sur l'adoption. Alors là, hop, ça nous renvoie au rêveur.
Absolument.
La famille, les enfants,
d'adoption.
L'adoption.
Dès le début de la pièce, effectivement, on est en Louisiane. Un couple très modeste a déjà 4 enfants. Mon personnage est à nouveau enceinte d'un 5e enfant qu'ils ne peuvent pas assumer. Donc, et elle lit une petite annonce d'un couple d'Américains très riches qui souhaitent adopter un enfant en échange d'arrangements financiers. Et effectivement, ça va être le début d'une histoire... dure, violente, drôle. C'est très bien écrit. C'est une scénariste en fait, Jane Anderson, qui a écrit pour des séries américaines. Qui elle-même, elle vit avec une femme à adopter un enfant. Elle a écrit cette pièce au début des années 90. Donc voilà, c'était un registre assez particulier, mais il y a des résonances incroyables parce que l'adoption n'est pas la même. Les lois sur l'adoption ne sont absolument pas la même aux États-Unis qu'en France, mais il y a des résonances assez étonnantes par rapport à l'adoption aujourd'hui. Voilà, la procréation médicalement assistée. Enfin, il y a beaucoup de choses qui résonnent étrangement et cette pièce est très émouvante. Et j'étais très très heureuse de travailler enfin avec Hélène Vincent, qui est une actrice que j'adore, une actrice merveilleuse et une metteur en scène. Alors vraiment, je suis comblée par le travail qu'elle nous fait faire en ce moment.
Isabelle Carré, à la fin de votre livre Des rêveurs, où il est aussi question d'une mère enceinte à 18 ans, d'un homme qu'elle a aimé et qu'il a quitté et qui va donner un enfant, qu'elle va donc faire adopter par un autre père, qui la plonge quand même dans une profonde dépression. Il est question d'un père qui se teint les cheveux et qui travaille ses muscles face à des images d'hommes, d'autres choses comme cela. Vous remerciez à la fin de votre livre votre mère d'avoir compris pourquoi vous écrivez ce livre. Est-ce que vous l'avez fait lire à vos enfants?
Oh non, ils sont trop petits.
Vous en avez 3.
Oui, j'en ai 3, oui. Non, c'est vraiment pas le moment. Et puis, c'est vrai que aussi quand je joue, ils sont déjà venus me voir jouer une fois, peut-être au théâtre. Mais je pense qu'ils ont même... De leur côté, enfin, ils préfèrent voir autre chose. Ils me voient toute la journée. C'est drôle, j'en avais parlé avec Isabelle Huppert. Et je lui avais dit, mais par moment, quand tu joues des rôles complexes, difficiles, est-ce que tu n'as pas peur du regard aussi que tes enfants vont porter sur ton travail? Je pensais à la pianiste Et elle avait éclaté de rire, elle m'avait dit « Oh là là, ils préfèrent pas aller voir leur mère au cinéma, de toute façon, ils préfèrent aller voir d'autres films avec leurs potes, et c'est très bien comme ça. »
Bon, peinture d'une époque également, donc les années 70, 80, et même remonter aux années 60 avec ses couleurs au mur, et aussi sa bande-son, vous donnez toute une bande originale à la fin de votre livre, on aurait pu en entendre plusieurs. Vous avez votre chanson préférée, « Le chemin de papa » par Joe Dassin, par exemple. Merci beaucoup Isabelle Carré.
Merci à vous.
D'être venue ce matin nous parler un petit peu des rêveurs. On laisse quand même tout le reste pour les auditeurs qui liront et j'espère qu'ils apprécieront. C'est un très beau livre. Merci beaucoup d'être venue ce matin. Tout de suite, c'est La Fabrique Médiatique.